Bonjour à tous, c'est Morgane pour un épisode un peu spécial. Si l'épisode d'avant il était un petit peu. Il était en comité réduit, bah là il est en comité très réduit. Parce que je devais faire une capsule pour l'épisode et puis j'ai pas eu le temps de la faire dans les délais qui étaient imposés. Du coup voilà, DK elle a publié l'épisode sans ma capsule et je voulais parler des news. Du coup je pense qu'on va diffuser cet épisode comme enfin cette capsule comme un épisode, du coup, un petit épisode bonus, parce que ça fait déjà 2 fois que je repousse. Enfin, ça, le mois dernier déjà je voulais en parler, mais vu que j'avais fait l'épisode sur la chronique sur les robots, sur la robotisation, je voulais pas parler de ces news, parce que ce serait. Enfin, j'ai préféré faire la chronique plutôt que ces news, et vu que j'avais déjà beaucoup de temps de parole, j'avais pas le temps de tout mettre. Du coup, voilà, j'en parle maintenant, donc elles sont un peu réchauffées, voire carrément réchauffées. J'en ai 3 ou 4, je sais pas si je vais avoir. Peut-être que je m'en garde une pour le prochain épisode. Je sais pas. En tout cas, je voulais vous parler. Alors attendez, avant que je commence, je vais juste boire un petit coup pour m'hydrater. Je voulais vous parler de 3 choses. Et la première, c'est avec Huawei. Bon, pour reprendre l'expression de quelqu'un d'autre, là, vous sortez, vous vivez vraiment dans une grotte si vous n'avez jamais entendu parler de Huawei qui perd sa licence Google. Alors, je voulais en parler parce que moi, j'ai un Honor 10. Et Honor 10, c'est une des filiales de Huawei, donc je suis affecté par cette chose-là. Alors, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Déjà, si on remonte. Non. Déjà, si. Déjà, si on remonte un petit peu dans le temps, l'année dernière, au Canada, il y avait la présidente, ou le président, je ne sais plus. Enfin, il y avait un haut responsable de Huawei qui s'est fait arrêter au Canada sur demande des États-Unis. Et. Voilà, pour être jugé là-bas, donc le procès en attente. Bon, j'ai pas de nouvelles en fait. Du moins, je sais pas. C'est passé sous les radars s'il y a eu des news, sous mes radars. Mais voilà, enfin Huawei, la justice américaine, c'est pas nouveau quoi. Et Trump, pour make America great again, il a fait passer un décret en urgence qui, pour ne pas déstabiliser la Chine. Pour ne pas viser toutes les entreprises, il a visé que Huawei, qui était pour lui un problème de sécurité nationale, qui était pour lui une entreprise qui posait problème pour la sécurité nationale en Amérique. Alors, ce qui se passe, c'est que Huawei, pour ses antennes, enfin, en fait, le scandale, il vient des antennes 5G qu'ils font. Et apparemment, il y aurait, enfin, on ne sait pas, mais il y aurait, ça poserait des problèmes de sécurité nationale. Et donc, Huawei, ils sont de super bonne foi et ils laissent leur truc, ils laissent leur, pas le code source en libre accès, mais ils donnent les antennes. Puis ils disent, bah, allez-y, montrez-nous, quoi. Enfin, il n'y a pas de problème, vous pouvez utiliser nos antennes, les tester dans tout, vous pouvez utiliser notre matériel, l'utiliser dans tous les sens pour vérifier qu'il n'y ait pas de problème. Et puis, bah, jusqu'à l'heure actuelle, on n'a toujours rien trouvé, mais bon, apparemment, il y aurait des problèmes de sécurité nationale. Enfin, rien public, du moins. Et donc Trump, il a fait passer ce petit décret. Alors, première réaction à ce stade, est-ce qu'il y a vraiment problème? Je ne sais pas. On a vu dans l'épisode précédent avec le pilote Huawei qui utilisait des techniques vraiment soupçonneuses. Donc soit c'est de la ultra grosse négligence, soit c'était intentionnel de laisser des failles. Alors, est-ce qu'il y a la même chose dans les antennes? Enfin, on ne sait pas. J'ai pas envie de m'avancer là-dessus parce que j'en sais rien. Et c'est un truc qui est plus pour les experts, on va dire, de ce domaine. Mais voilà, enfin, en tout cas, la position de Huawei à ce stade, c'est bah non, on vous donne. Vous pouvez examiner nos antennes, et puis si vous pouvez examiner nos antennes, nous on dit qu'il n'y a rien. Donc allez-y, examinez-les, et puis prouvez-nous qu'on a tort. Honnêtement, si je vais quand même donner mon opinion, moi je trouve quand même que les Chinois, alors j'aime pas parler comme ça, mais je trouve que les Chinois, ils ont, en 10 ans, ils sont passés du bas de gamme à, enfin, de la chinoiserie, quoi, à une expertise réelle. Moi, qu'on me dise, ils sont capables. Ils sont capables maintenant de faire des téléphones concurrents à l'iPhone, tu vois. Ils ont des concurrents Alibaba qui est meilleur qu'Amazon. Ils ont leur Google, l'équivalent Google. Enfin, ils ont des technologies qui sont largement équivalentes aux Américains. Et donc, qu'on me dise que les Chinois ils savent pas coder. Enfin, tu vois, genre, ils sont nuls, ils sont trop nuls, ils savent pas coder. Tu vois, j'y crois moyen. Donc, ce petit truc-là des pilotes, moi, mon opinion, il est quand même un petit peu plus. On fait croire. Ça peut être de la négligence, mais enfin, pour moi, c'était quand même plutôt intentionnel. On pourra jamais le savoir, mais voilà, pour moi, ça me paraît quand même bizarre. Faut pas croire que les Chinois ils sont mauvais à tout, au contraire, je pense. Alors évidemment, ça aussi, c'est il y a un fond de guerre commerciale. Alors est-ce que c'est que de la sécurité? Est-ce que c'est de la guerre commerciale? Moi je comprends que les États-Unis ils ont un peu les boules parce que justement en 10 ans ils arrivent maintenant à faire des téléphones. Ils étaient incapables de faire des téléphones et maintenant, vu que toute la production se passe en Chine, ils ont tout rétro-ingénéré. Et puis leurs brevets, leur propriété intellectuelle en Chine c'est juste de la blague, hein. Ils peuvent faire des copies d'iPhone sans aucun problème avec leur propriété intellectuelle. Donc bon, c'est pas très fair par rapport aux autres entreprises qui ont une propriété intellectuelle qui est complètement différente. Donc voilà, vraiment pour ça, avoir plus de recul pour ça, qu'est-ce qui va se passer, comment les Chinois vont répondre, comment ça se passe, il faut laisser le temps, la réaction à chaud, bof bof. Pour aller plus loin, donc du coup, Huawei a perdu sa licence Android, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les nouveaux téléphones à partir de maintenant ne peuvent plus utiliser Android. Alors ils pourront utiliser la version open source de Android, mais pas Android. Ça veut dire que les téléphones existants, si j'ai bien compris, vont perdre leur licence Google. Donc bah, en Chine ils s'en foutent parce que de toute façon Google c'est interdit. Aux États-Unis ils s'en foutent parce qu'ils n'ont pas de téléphone Huawei. Quasi pas, par contre, nous en Europe, si, beaucoup. Et l'Europe, contrairement un peu à ce qu'on peut penser, l'Europe c'est le premier marché mondial, c'est la première puissance mondiale, premier exportateur, premier, enfin, c'est une énorme puissance économique. On a des sous en Europe, et voilà. Donc, les Chinois qui perdent, enfin, va dire aux utilisateurs, bah, achète un téléphone Huawei, parce que les téléphones Huawei, faut le dire, enfin, moi j'ai un Honor. C'est un super. Enfin, j'ai rien trouvé de mieux en rapport qualité-prix. La qualité des logiciels Huawei, là, sa caméra avec l'intelligence artificielle qui te rajoute les trucs, qui te remet des couleurs. Enfin, la caméra est vraiment super. Tous ceux qui voient mes photos, bah, si vous allez voir mon carnet de voyage, les photos sont tous prises avec mon téléphone. C'est pas un appareil photo pro et la qualité des photos, elle est super, quoi. Tout le monde, à chaque fois qu'on voit mes photos, fait waouh, t'as un super appareil, super bonne qualité. C'est un téléphone qui coûte 300 balles, quoi. Et encore, je pouvais l'avoir pour 200 ou 150 euros si je l'achetais via la Chine. Mais j'ai préféré l'acheter sur un truc français pour avoir les garanties s'il n'était pas expédié, machin. Parce que je suis encore un peu. J'ai dû acheter sur Alibaba, mais bon, bref, quand on achète enfin, un téléphone et tout, là, je me dis, bon, le mec il me l'envoie pas, j'ai jamais rien, je reverrai jamais mes sous. J'ai préféré passer quand même par un intermédiaire qui augmentait un peu plus le prix du téléphone. En tout cas, c'est des super téléphones rapport qualité-prix. Bon, évidemment, dans les téléphones, il y a plein de merde. Mais Fabrice nous avait fait un super, envoyé un super article il y a deux ou trois épisodes sur comment en ligne de commande, là, on peut lister les applications qu'il y a sur ton téléphone Android et les supprimer. Et tous les machins qui commencent par i quelque chose, là, qui est Huawei, leur application iSalud, enfin iSanté, iLT, machin, le truc qui compte les pas. Enfin, il y a plein de merde. Et puis, une fois que tu les supprimes, le téléphone, il fonctionne nickel. Hein. Et en plus, ça économise ta batterie, mais elle est meilleure. Enfin, ça a moins d'applications qui tournent, mais plus de RAM, moins de batterie qui s'utilise, la longévité, enfin bref, c'est top. Donc avec un tout petit poil de boulot, enfin, franchement ça a pris 5 minutes à désinstaller toutes les merdes, le téléphone nickel quoi. Donc moi aucun problème à acheter les téléphones chinois, vu que derrière après c'est plus que l'Android. Par contre, qu'est-ce qui va se passer? C'est que moi, mon téléphone Android, ils peuvent pas le désinstaller, mais par contre je vais perdre, il me semble, que je vais perdre les accès à Play Store. Le Play Store, les Google Maps. Bon, Google Maps, je m'en fous, j'utilise Waze, mais il est encore bien parce qu'il me fait les transports en commun, les trucs comme ça. Enfin, moi, je vais perdre la... Et surtout, c'est perdre l'accès au store, c'est-à-dire que je ne pourrais plus installer d'applications, de nouvelles applications, donc mon téléphone, il va doucement détruire, je ne pourrais plus recevoir les mises à jour des applications. Alors, les grands comme Google Drive, enfin, tu vois, genre, je me suis acheté un abonnement Google Drive à 2 euros par mois qui m'offre 100 gigas. Et ce qui est vachement bien, c'est qu'avec mon téléphone, ça backup automatiquement les photos. Donc moi, c'est super bien, je suis en vacances. Dès que j'ai du Wi-Fi, hop, ça m'upload les photos sur le drive. C'est pour ça que j'ai passé, parce que j'avais que 10 gigas. Mais vu que ça m'upload les photos, j'avais dépassé les 10 gigas. Et je trouvais que c'était super bien la fonctionnalité. Parce que si je me fais voler mon téléphone, ben voilà, je garde mes photos. Et ce qui a le plus de valeur pour moi, quasiment. Donc voilà, ça, c'est toutes ces applications, je vais les garder. Mais puis j'ai confiance quand même dans Google, dans je sais pas quelles grosses applications j'ai. Bon là comme ça j'ai pas d'autres idées, mais enfin pour faire en sorte que avec les mises à jour bah, ça continue à marcher. Uber, les machins comme ça. Voilà, qu'ils vont faire en sorte qu'il y ait une stabilité, que la version que j'ai, elle va marcher pendant je sais pas 2, 3 ans. Enfin ils ont 3 mois avant d'arrêter les mises à jour, donc ils ont 3 mois pour stabiliser les API et se dire bah on se garde une rétrocompatibilité pendant 3 ans, comme ça l'application elle continue de fonctionner pendant 3 ans, le temps que je change le téléphone et tout ça. C'est-à-dire que je pourrais plus. Faudrait que je passe par un autre store pour appliquer les. Pour installer les applications. Bon, les stores open source, il n'y a quasi rien. Et donc je ne sais pas encore comment je vais faire. Donc on va voir dans 3 mois comment ça va se passer pour moi. Mais bon, pour ceux qui ont déjà un téléphone. Enfin, voilà, moi ça me. Voilà. Alors peut-être que je dis une grosse bêtise et que je pourrais continuer à avoir les mises à jour, mais il me semble que non. Que je pourrais continuer à installer des applications du store, mais il me semble que non. Donc voilà, à voir, je tiendrai au courant ça dans 3 mois. Donc voilà, et les Chinois, enfin Huawei évidemment, a répliqué en disant que bah ils vont, enfin ils vont faire leur système. Alors là, c'est là où ça va devenir plus compliqué, c'est que ça va probablement être un truc basé sur Android parce que 90% du marché en Chine utilise Android, les téléphones en Chine utilisent Android. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une rétrocompatibilité avec Android. Donc je vois mal commencer un truc from scratch. Je vois bien utiliser la source open source d'Android pour rajouter leur surcouche. Et c'est là où ça va être drôle, c'est que maintenant leur application qui a été installée sur la base Android, eh ben, ça va être installé dans la surcouche. Et à mon avis, ça ne va pas être facile, ça ne va pas être aussi facile de cleaner son téléphone Huawei comme ça l'est actuellement. Et je pense que pour les nouveaux Android, les nouveaux téléphones qui vont se vendre, parce qu'il ne faut pas se mentir, Huawei va. Enfin, les gens vont continuer à acheter du Huawei parce que bah déjà ils s'en foutent de ta vie privée, de la protection de la vie privée, la majorité des gens s'en fichent. Et eux, tout ce qu'ils veulent, c'est un téléphone pas trop cher et qui fasse bien le taf. Donc Huawei va continuer à faire ça. Donc peut-être pour cette année, ça va freiner les ventes le temps qu'ils fassent leur OS. Mais dans quelques mois, enfin, genre à horizon 2 ans, moi je vois bien le nouveau OS arriver avec tous les crapwares, enfin, tous les logiciels de merde intégrés que tu ne pourras plus jamais enlever. Donc autant là, on avait une solution pour le cleaner, autant dans le futur, mais je ne sais pas comment ça va être. Et voilà, j'ai un peu plus peur quand même au niveau de la vie privée. Donc voilà. On va bien voir. Ça se trouve que cette décision aura plus d'effets négatifs pour nous que d'effets positifs. Donc voilà, ça c'est tout pour Huawei. C'est un sujet, c'est assez condensé. Je me suis un petit peu perdu. Donc je vais passer par un truc un peu plus light. Sur une deuxième news qui est un peu plus light, je voulais parler de Chrome. Alors en fait, il y a quelques mois, je crois que c'est en janvier, un truc comme ça. En décembre 2018, Edge, qui est en fait le nouveau Internet Explorer, a annoncé qu'ils abandonnaient qu'ils arrêtaient de développer leur propre moteur de rendu homemade, qui était plutôt bien, hein, faut le dire. Nous, on assurait, enfin, dans mon ancienne boîte, on assurait la compatibilité Edge parce que tous les nouveaux ordi, Windows 10, ça vient avec Edge, assurait la compatibilité Edge. On assurait la compatibilité Edge et au niveau du moteur de rendu, respectait le W3C, il était grave meilleur que enfin les standards web, il était grave meilleur qu'Internet Explorer, ils avaient fait franchement du bon taf. Sauf que ils ont annoncé qu'ils arrêtaient de développer leur moteur de rendu pour rejoindre, pour utiliser Chrome sous le capot. Alors derrière, il y a les ingénieurs de Microsoft qui ont publié un article en disant que bah, Google faisait exprès de ralentir les sites, genre YouTube ou quoi. Ils faisaient des tricks à partir de div qui sont pas standards, mais que Chrome s'est géré super bien et qui existe que dans Chrome, qui fait que YouTube marche mieux sur Chrome que sur Edge, quoi, le moteur de rendu. Et ils n'arrivaient pas à optimiser parce que bah, à chaque fois, enfin voilà, à chaque fois, Google faisait en sorte que leur site fonctionne mieux sur Chrome que sur les autres. Ils faisaient en sorte de ralentir les autres. Bon, et là il y avait l'ingénieur, enfin il y avait un mec qui avait posé un blog post et qui avait gueulé. Donc on voit bien que Google en interne, bon voilà, ils propulsent à fond Chrome quoi, et maintenant ils ont, je sais pas combien de pourcents du marché, enfin c'est clairement les leaders. Tous les gros opérateurs, Vivaldi, Opéra, ils utilisent Chrome en dessous. Même si Safari, c'est pas le cas, je suis pas sûr. En tout cas, en gros maintenant il reste Chrome et Firefox. Sauf que là, Chrome a annoncé la dépréciation de leur API Web Request au profit des nouvelles API déclaratives Next Request. Alors, qu'est-ce que ça change cela? Qu'est-ce que ça change? Alors, les nouvelles API déclaratives Next Request. Enfin, les API Web Request, c'est les trucs, les choses. C'est les API sur lesquelles sont basées les extensions type uBlock, uMatrix, enfin les trucs bloqueurs de pub, qui permet en fait de, avant même que la requête soit émise, la Web Request soit émise, de la bloquer. La requête vers les sites de pub. Du coup, ça optimise, on va dire, ton temps de chargement. Nanana. Et du coup, avant même que la requête parte, elle est bloquée et comme ça, elle n'est jamais envoyée sur les serveurs de pub. Et les nouvelles déclaratives Next Request, et en fait, elles vont avoir une limite. Alors déjà, les règles, elles vont être en lecture seule, elles vont pas être modifiables à la volée, et elles vont être limitées à 5000 règles, probablement. Alors, je ne sais pas si c'est pour des raisons de performance ou pour des raisons commerciales. Enfin bref, ça va être limité à 5000 règles. Règles de filtrage et évidemment les bloqueurs de pub ils ont genre 7000, enfin il y a 7600, 8000 règles pour bloquer les régies publicitaires, donc il y en a moins que il y a moins de règles disponibles que il y a de URL de pub. Donc, ce qui se passe, c'est qu'ils souhaitent déprécier les web requests, donc les vieilles API, d'ici quelques mois. Et évidemment, les extensions uBlock, uMatrix et tout ça, ça repose sur les web requests. Donc déjà, ils vont ne plus fonctionner. Elles ne vont plus fonctionner. Elles devront faire la mise à jour vers les nouvelles API et vers les nouvelles API qui ne leur permettront pas de filtrer correctement les nouvelles requests. Et voilà. Donc, évidemment, parce que Google est bien, évidemment, les anciennes API, les web requests, elles seront disponibles, toujours disponibles pour la version entreprise payante. Donc, dans ton entreprise, ton navigateur Chrome, lui, pourra continuer, enfin, les entreprises en payant pourront continuer à bloquer les pubs autant qu'elles veulent. Mais toi, particulier, tu seras. J'avais pas envie de dire le mot. Mais voilà, tu l'auras dans le baba. Et voilà, moi ce que ça m'inspire, c'est que heureusement qu'on a encore Chrome et qu'il lâche pas l'affaire, et que Chrome a fait énormément de progrès pour ce qui est de la qui a fait énormément de progrès en ce qui est de la performance, parce fallait à un moment, fallait quand même le dire, Chrome était carrément meilleur que Firefox, mais maintenant il s'équivaut. Et heureusement qu'on a un navigateur web Firefox qui est vraiment très respectueux de la vie privée. Chaque nouvelle itération, ils implémentent des nouvelles features pour améliorer les performances et pour améliorer l'anti-tracking quoi, des utilisateurs pour ta vie privée. Et on voit que maintenant Chrome a une situation de monopole où il est utilisé, non seulement le navigateur Chrome est utilisé par, je sais pas, mais plus de 80% on va dire de la population web, plus les autres pourcents des navigateurs, bah ici il y a Firefox qui est autonome, mais les autres utilisent quand même Chrome, quoi. Donc voilà. Maintenant qu'ils ont bien la situation de monopole, ils font bien chier, de la même façon qu'Internet Explorer faisait bien chier à l'époque où il était en monopole. Donc c'est important d'essayer, vous, en tant que Linuxien, on va dire, les gens vous perçoivent comme des passionnés de Linux, enfin comme des passionnés d'informatique parce que vous utilisez Linux, vous êtes des héros, des gourous. Alors quand vous voyez quelqu'un qui utilise Chrome ou quoi, alors tu devrais, il y a une limite, c'est chiant, mais essayer de dire, bah, ah, utilise Firefox, c'est mieux. Chrome, ils vont arrêter de bloquer les pubs. Si tu utilises Firefox, t'installes cette extension, on t'aura pas de pub. Voilà, tu peux essayer de dire des choses comme ça pour essayer de. Enfin voilà, changer le monde commence par se changer soi-même. Donc moi, je pense que vous, en tant que Linuxien, vous utilisez Firefox, je l'espère. Et sinon, bah, commencez par changer vous-même. Et une fois que vous vous êtes changé vous-même, essayez de montrer, d'expliquer aux autres sans être un gourou qui dit tu dois faire comme ça. Essayez de sensibiliser quand vous pouvez pour utiliser Firefox, parce que honnêtement pour le web, c'est, enfin pour l'avenir du web, c'est quand même mieux qu'il y ait d'éviter les situations de monopole. Et pour moi là, vous pouvez avoir un impact. Voilà pour Chrome, et je vais vous parler. Alors là, c'est carrément plus engagé, on va dire. Celui-là, je vais vous parler de Sci-Hub. Alors, peut-être que vous ne connaissez pas, peut-être que vous connaissez. Si vous connaissez, tant mieux. Si vous connaissez pas, vous perdez rien parce que vous l'utilisez probablement jamais. Mais qu'est-ce qui se passe avec Sci-Hub? Moi, c'est des choses qui me révoltent. C'est pour ça que je voulais en parler pour vous éclairer, pas éclairer, mais pour voilà, pour vous sensibiliser. Donc début mars, la justice française répond docilement à une plainte de Elsevier et de Spring Nature et impose à leur FAI de bloquer l'accès à Sci-Hub et LibGen, deux sites. Alors, avant que je rentre plus en détail sur ce que c'est Sci-Hub et LibGen, je voulais juste vous parler du monde de la recherche. Alors, en fait, la recherche, ça fait 150 ans, ou algo de 250 ans, enfin 200 ans, 150 ans que ça s'accélère et que c'est en fait beaucoup plus sérieux qu'avant. Et en fait, si elle est de si bonne qualité, c'est qu'il existe un processus qui s'appelle la validation par les pairs. Donc, la validation par les pairs, en fait, c'est quoi? C'est quand tu publies, quand tu proposes un article, enfin, quand tu écris les résultats de ta thèse, de ta recherche, tu les envoies, enfin, il y a d'autres scientifiques, minimum deux, qui les lit ou les valident, enfin, qui les valident et les corrigent. Ce qui fait qu'un article, enfin, ce qui fait que, voilà, on évite les erreurs qui vont être répétées ailleurs. Enfin, l'article, enfin, le résultat de recherche est de meilleure qualité, puisque des recherches s'appuient sur d'autres recherches pour exister. Enfin, voilà, la recherche s'appuie sur les recherches antérieures, donc c'est important que le socle soit solide, quoi, pour pouvoir avancer. Et donc, c'est un système qui marche très bien, puisque ça fait 150 ans que c'est comme ça, et que ça fonctionne très bien, et que la recherche c'est d'aussi bonne qualité. Sauf que. Cette chose-là, ce système-là, il y a 150 ans, il y a 150 ans en arrière, c'était un bon business à prendre. Une boîte qui se place en intermédiaire et assure la coordination entre les chercheurs pour faire la validation, pour recevoir les articles, faire valider par les pairs, filtrer ceux qui ne sont pas assez intéressants et les publier. Ça, c'était à l'époque du papier, c'était super bien. On envoyait une lettre, un courrier. On validait, ça demandait beaucoup de travail, et voilà. Donc comment ça se passe? Oui, c'est donc comme je disais, un chercheur qui envoie un article à un intermédiaire, donc l'intermédiaire c'est une revue scientifique, qui se charge de trouver au minimum deux pairs, enfin deux chercheurs dans le même domaine, et de chercheurs. Et évidemment, ils le font bénévolement pour corriger ou filtrer l'article s'il n'est pas d'assez bonne qualité. Et puis ensuite, l'article est publié dans la revue. Ainsi, il y a quelques acteurs, gros acteurs qui ont émergé et ont atteint une notoriété très importante. Tellement importante que nous sommes dans une situation de monopole. C'est tellement dans une situation de monopole qu'aujourd'hui, et spécialement pour les nouveaux chercheurs, enfin les débutants, je pourrais dire débutants, mais enfin ceux qui. Leur première thèse, quoi. Il faut être publié, c'est clair que si tu es publié dans une revue scientifique sérieuse, au niveau de la crédibilité, ça en jette. Enfin, tu peux, voilà. En gros, pour leur carrière, pour leur succès de leur carrière, pour évoluer, il faut tout le monde doit être publié dans The Nature. Enfin voilà, d'être publié dans des revues sérieuses, enfin, ça fait mieux sur le CV. Et c'est là où ils ont une situation de monopole, c'est que maintenant ils sont tellement importants, ils ont une notoriété tellement importante qu'ils ont monopole. C'est là où ça rentre en jeu, c'est que pour moi, ils abusent de cette situation de monopole. Alors, je voulais juste parler de quelques chiffres, donc j'ai remercié les Datagueule, je crois que c'est l'épisode 63, je sais plus. Pour me donner ces chiffres. Alors, 37% de marge, rentabilité x4 sur les 4 dernières années. Ce sont les chiffres de Elsevier, le numéro 1 de l'édition scientifique qui possède 16% des revues publiées. Si on additionne tous les géants, si on additionne les 4 plus grosses entreprises, pardon, qui sont donc Elsevier, qui est le numéro 1, Springer Nature, Wiley Backless et Tyler and Francis, ce sont 40% des articles publiés qui sont partagés. Enfin, que ces quatre gros groupes se partagent 40% des revues scientifiques. Ça représente un chiffre d'affaires de 7,6 milliards d'euros par an. Milliards d'euros, 7 milliards d'euros par an en abonnement à ces revues scientifiques. Alors, comment ça marche? Business model, il est simple. Il est plutôt simple. Et ça je l'ai déjà expliqué en fait. Et vous allez voir que. Enfin, bon. En gros, vous demandez à un chercheur de vous envoyer leurs travaux. Vous les faites relire par d'autres chercheurs bénévoles. Évidemment, si possible, on ne les paye pas. Vous publiez la correction dans le jour, vous les publiez la correction dans les journaux. Ensuite, vous les vendez à qui vos articles? Eh bien, aux universités où travaillent les chercheurs qui vous ont envoyé les articles. C'est pas mal, ça fait un beau cercle. Alors, pourquoi? Déjà, ça me pose problème. Parce que qui c'est qui finance la recherche? Ce sont tes impôts. Enfin, l'impôt. L'impôt finance la recherche. Qui envoie des articles à The Nature. Donc ça finance, qui envoie les articles par exemple à The Nature, et ensuite l'État paye The Nature pour récupérer les publications. Donc en fait, toi, ton impôt, il paye trois fois. Il paye l'université, il paye le chercheur, et il paye l'article qui l'a produit. Oui, parce que ce qui se passe, c'est que... Bon, non, j'en parlerai plus tard. Autre chiffre, aux USA. Le prix des revues scientifiques augmente de 7%, en moyenne, augmente de 7% par an sur les 20 dernières années. En 2014, les universités françaises ont dépensé 105 millions d'euros pour les abonnements à ces revues scientifiques. 105 millions d'euros. En fait, là, déjà, ce qui se passe, première chose, c'est qu'il y a 150 ans en arrière, avec du papier, bon, ça se justifiait. 37% de marge, tout ça. Sauf que maintenant, les frais d'impression sont beaucoup moindres. On paye des abonnements à des portails. Enfin, tout a été digitalisé. L'envoi, c'est gratuit. T'envoies à tes pairs, enfin, c'est un robot qui le fait. Hop, ils ont une base de données. Hop, ils ont une base de données de scientifiques. Ils leur envoient. Ils envoient l'article. Ils font corriger. Enfin voilà, tout ça est tout automatisé. La publication, c'est des PDF. Enfin, tout est informatisé. Et donc, ça ne justifie pas les augmentations de 7% par an. Pourquoi ça augmente? Pourquoi ça ne diminue pas? C'est comme ça qu'ils ont augmenté leur rentabilité de x4, sans changer leur modèle économique, mais avec l'adaptation de la technologie. Et comme ils sont dans une situation de monopole, eh bien, les chercheurs, Ils sont un peu bloqués. En gros, c'est le syndrome de deux mecs en prison. Enfin, tu fous deux mecs dans une cellule. Il dit, si tu dénonces ton pote, tu peux partir. Si tu ne le dénonces pas, tu restes. Et ben, les deux se balancent eux-mêmes. Ben, c'est un peu la même chose. Enfin, les deux se balancent. C'est un peu la même chose. C'est que ah bah si je boycotte, je publie pas. Si je boycotte la revue, je veux pas publier chez eux, bah, je vais pas avoir de carrière. Mais les autres vont le faire, donc ils vont avoir une carrière. Puis au final, il y avait des tentatives de boycott, mais au final, ça marche jamais. Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a des tentatives de portail gratuit qui en fait envoient les préprints. Les préprints, c'est donc la publication avant qu'elle soit relue. T'envoies la préprint. Et voilà, elle est publiée gratuitement. Parce que le préprint t'appartient. Il faut savoir, c'est que quand tu leur envoies tes travaux, tu perds ton droit d'auteur. Tu n'as plus de droit d'auteur dessus. C'est la revue scientifique qui se prend le droit d'auteur. Et donc, il l'envoie aux autres, qui le corrigent et garde la version corrigée. La version corrigée n'a pas le droit de la publier puisqu'elle ne t'appartient plus. Donc, c'est pour ça qu'il existe des alternatives pour avoir le préprint, mais pas pour avoir le print. Alors, si quand même, pour la petite histoire, il existe des archives ouvertes, enfin, il y a d'autres portails qui se créent, notamment une à l'initiative du CRS, CNRS, qui s'appelle al.archiveouverte.fr. Pour la petite histoire, moi je me rappelle que les profs à notre université, en informatique, enfin c'est surtout mathématiques et informatique hein, quand même, parce que c'est moins difficile de reproduire les travaux, donc ça demande moins de budget, donc c'est quand même plus facile. Enfin, en France, on met pas les mêmes budgets. Donc le CNRS, voilà, HAL, et donc HAL, HAL. Je me souviens qu'on avait un prof, voilà, quand il voulait pas se faire chier, il allait chercher un article sur HAL.fr là, enfin sur HAL.archiveouvert.fr, et il effaçait des parties du texte, et puis il nous filait ça en partiel, et puis on devait trouver qu'est-ce qui manquait dans les travaux de recherche. Enfin, voilà. Donc ça, c'est la petite histoire pour HAL. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Ce système, il est aberrant. Là, on l'a vu. Ça craint un peu. Enfin, moi, je trouve que ça craint un peu. Surtout que toi, avec tes impôts, bah, tu participes à ça. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une chercheuse du nom d'Alexandra Elbakian, qui est en fait une chercheuse du Kazakhstan, qui bossait, pour la petite histoire, elle bossait sur... Elle avait eu une idée. En gros... Utiliser les signaux électriques produits par ton cerveau, donc ta pensée, pour t'authentifier à un système. En gros, voilà, en gros, c'est rien d'autre que s'authentifier par la pensée grâce aux signaux électriques produits par ton cerveau. Et donc, elle a fait une recherche vite fait sur ce qui existait déjà sur les signaux électriques du cerveau et tout ça, et elle est tombée sur 70 sujets déjà disponibles, mais ils étaient quasi tous payants. Sauf que dans les pays plus pauvres, eh ben, ils n'ont pas autant de budget que nous, Européens, pour l'accès aux revues, et ils doivent payer donc pour voir cette nana, elle devait donc payer pour avoir accès à ces aux revues, pour voir ce qui s'était déjà fait, si c'était pas un doublon, si elle pouvait s'appuyer sur ce qui existait déjà pour faire ses travaux, enfin juste le travail de littérature, d'études de l'existant quoi. Et ben, elle pouvait pas le faire, et donc du coup voilà, face à, donc si, il y avait quand même des forums qui existaient où tu demandais une publication sur un forum et des mecs te l'envoyaient, des universités qui l'avaient déjà, donc il y a déjà des forums de piratage qui existaient, mais elle en a profité pour créer un site, une plateforme qui s'appelle Sci-Hub, où on upload les revues scientifiques et enfin les travaux de recherche qui sont quand même payés avec ton argent, qui devraient être publics selon moi, mais bon. Et on les upload et puis voilà, on peut y accéder gratuitement et quasi tous les chercheurs utilisent ça. Donc voilà, la justice française a fait fermer ce site. Faut juste savoir, pour la petite anecdote, il y a un mec, je sais plus comment il s'appelle, mais il avait uploadé des milliers ou millions, je sais plus, non, des milliers de revues scientifiques et il a été poursuivi en justice et on lui réclamait je sais plus combien de millions d'euros, enfin de dollars pour ça et face à la pression judiciaire, il s'est suicidé. Enfin voilà, enfin. Pour moi, le savoir devrait être gratuit déjà, première chose, et puis encore plus quand il est produit avec ton argent public. Avec ton argent, tu devrais pouvoir y accéder gratuitement. Bon. Voilà, donc ce site, Sci-Hub, la justice française, enfin, sous la pression des deux géants qui sont Elsevier et Springer Nature, La France a décidé de bloquer l'accès au site. Donc, en soi, bloquer l'accès, bon, tu utilises un VPN, tu utilises les DNS Google, tu utilises. Voilà, t'as toujours un moyen d'y aller, le site il change de nom de domaine, nanana, bon. C'est pas si grave, mais je voulais juste me servir de ce prétexte pour montrer. Alors, déjà, mettre en lumière un petit peu ce système de recherche, comment ça marche, parce qu'il y a quand même un peu de l'hypocrisie, je trouve. Et puis voilà, enfin, c'est quelque chose. Ces papiers sont produits avec ton argent public. L'État repaye encore une autre fois, donc déjà ça c'est aberrant. Mais en plus maintenant, ils collaborent à censurer des plateformes comme Sci-Hub qui pour moi devrait être, enfin, la norme en ce qui est en termes de recherche. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Enfin, c'est les trois news dont je voulais parler. C'est dommage parce que sur cette news, j'aurais bien aimé avoir l'avis de Fabrice un petit peu. Enfin, qu'est-ce que lui il en pense parce qu'il a fait de la recherche en chimie. Donc j'aurais bien aimé avoir un peu son opinion. Peut-être qu'il aurait pu me corriger. Peut-être que voilà, j'ai peut-être un peu bafouillé parfois. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée si vous m'écoutez en journée, une bonne soirée si vous m'écoutez en soirée. Et je vous dis à une prochaine, peut-être au prochain épisode, peut-être pas. Dépendra si j'ai le temps de faire des capsules, si j'ai le temps si je peux me rendre disponible pour le prochain enregistrement. Donc voilà, bonne journée à vous et bon courage.